vous écoutez le Gallicast, le premier podcast français sur Doctor Who.
Pour le Gallicast épisode 44. Aujourd'hui, pas de Michel, pas de Thomas, pas de Joël ou de Rumeur. Aujourd'hui, non, un épisode entièrement consacré à la sortie des romans Doctor Who, avec le 11e Docteur, aux éditions Milady, le 20 janvier dernier. Et pour cette occasion, Gallifrance a été le 12 janvier dernier dans les locaux des éditions Milady Bragelonne pour faire une interview de Stéphane Marsan, le directeur de publication. Donc je suis avec Stéphane Marsan, directeur de la publication chez Milady et Bragelonne. Bonjour, merci de vous accueillir dans vos locaux. Milady va sortir en février, c'est bien cela, les romans Doctor Who en français.
En fait, dès janvier un peu plus.
Dès janvier. Donc trois romans en janvier et puis après c'est un roman par mois.
Absolument.
C'est super. Pouvez-vous nous décrire un peu les éditions Milady et Bragelonne pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment ce que vous êtes ?
Eh bien, en deux mots, Bragelonne est une maison d'édition qui a maintenant un peu plus de 10 ans. On s'est créé en 2000. C'est une maison indépendante qui publie des littératures de l'imaginaire, comme on dit en français, c'est-à-dire de la fantasy, de la science-fiction, du fantastique, etc. En grand format. Et en 2008, on a créé une collection au format poche, qui donc s'appelle Milady, comme son nom l'indique, eh bien pour proposer cette fois en poche et à prix modique des ouvrages que jusque-là on proposait en grand format. Donc chez Bragelonne comme chez Milady, on publie de grands auteurs de fantasy du genre Terry Goodkind, David Kemmel, Raymond Feist, Terry Brooks, etc. Des auteurs moins connus, justement, que des jeunes qu'on essaie de faire connaître. Et puis de la science-fiction, et puis du fantastique, de l'horreur. Et puis, d'une façon plus générale, Milady, avec le poche, nous a permis d'aborder le monde de la licence, comme on dit dans le business, c'est-à-dire, ou des franchises, comme on dit chez nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire, finalement, faire vivre en littérature des héros et des aventures qui viennent du cinéma ou de la télévision, et, ou du jeu vidéo, par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs gammes. La plus connue, c'est Donjons et Dragons, évidemment, qui est liée au jeu de rôle, bien connu, mais aussi jeux vidéo comme Assassin's Creed, etc. La condition étant, tout simplement, il faut que ça soit de bonnes histoires. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de proposer le copier-coller ou la ressucée du jeu ou d'un épisode de série télé, mais il faut que le roman soit un bon roman à part entière. Quand en plus c'est une thématique ou un univers qui à l'origine nous emballait. C'est ce qu'on décide de publier.
Alors, Doctor Who, c'est un événement, c'est devenu plutôt récemment culte en France, enfin culte, pas encore tout à fait, mais disons que c'est vraiment quelque chose de nouveau. D'où vous est venue l'idée de proposer aux fans les romans en français ?
Alors, ça remonte à assez loin, en fait. Le truc, c'est que, d'une certaine façon, Bragelonne est né avant la création de la société, par ma rencontre avec Alain Evan, qui dirige Bragelonne avec moi, et qui, lui, a toujours été un grand anglophile. Et on s'est rencontrés en 98, et en 99, lui, à l'époque, était rédacteur en chef de Science Fiction Magazine en France, et moi, je m'occupais d'une autre petite maison d'édition, et il m'a dit, mais Stéphane, t'es jamais allé dans une convention de fantasy en Angleterre, il faut absolument que tu viennes avec moi. Et donc en septembre 99, il m'a emmené à Birmingham, à la FantasyCon, la convention britannique de fantasy. Et pour moi, évidemment, c'était une révélation, enfin, c'était plein de révélations en même temps. Je dis que Bragelonne, d'une certaine façon, est né là, parce que là, j'ai découvert nos amis anglo-saxons, que j'avais jamais rencontrés. Je me suis rendu compte que Alain connaissait parfaitement ce corpus, ce milieu, etc. Et finalement, quand quelques mois plus tard, on a créé Bragelonne en disant toi, Stéphane, tu apportes ton savoir-faire d'éditeur de fantasy puisque jusque-là, je ne publiais que des Français. Et Alain, lui, ben, il apporte sa connaissance d'un corpus anglo-saxon qu'il faudrait traduire. Bon. Ça, c'est l'aspect genèse éditoriale de Bragelonne par rapport à cette, rencontre. Le lien avec Doctor Who, c'est évidemment la découverte du milieu de l'imaginaire britannique. Et alors, il ne se limite pas à Doctor Who, mais vous savez encore mieux que moi à quel point Doctor Who est à la fois une sorte de... vraiment au cœur de ce milieu. C'est évidemment extrêmement populaire dans toutes les couches de la société, mais c'est finalement c'est le point de rencontre de tous les gens qui aiment un peu la SF, l'imaginaire, la fantasy, le fantastique, etc. Et puis c'est une quelque chose qui est véritablement comment dire, c'est un amour d'un patrimoine national. C'est-à-dire que je connais pas, enfin peut-être qu'en France ça serait Astérix par exemple, dans un genre complètement différent, mais bon, quelque chose qui est aussi qui est un peu le drapeau de la création de l'imaginaire anglais depuis déjà de très longues années. Bref, donc quand j'ai rencontré ce milieu, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir, et notamment le fait que ces gens parlaient d'un truc dont j'avais jamais entendu parler, qui était Doctor Who. En fait, j'avais rencontré Doctor Who d'une certaine façon bien des années avant, quand j'avais 18 ans, que je suis allé à Londres pour la première fois avec ma copine de l'époque, et qu'on avait visité le Museum of Moving Image. Et là, j'avais vu une vidéo en noir et blanc d'une cabine téléphonique dans la brume, et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas que c'était une série télé, mais... et en fait, ça m'était resté. Et évidemment, à Birmingham en 99, j'ai fait le lien et je me suis rendu compte d'une certaine façon, comme quelque chose qui est assez typique de la série, on a sûrement tous rencontré Doctor Who un jour et on ne s'en est pas rendu compte.
Voilà.
Et donc, voilà, le détonateur, il est là. Et en fait, pendant une petite dizaine d'années, où évidemment, avec Alain, on est allé très régulièrement, pas seulement à la FantasyCon, mais aussi à EasterCon, qui est la convention de science-fiction anglaise, et très souvent à Londres, enfin, on est vraiment des grands fans de l'Angleterre et de Londres. On aime ces gens, on aime leur culture, on aime leur façon d'être, etc. Pendant 10 ans, régulièrement, on se trouvait dans des conversations où ces gens, quand je dis ces gens, c'est des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs, etc., parlaient de Doctor Who. Et en fait, on avait une espèce de distance un peu ironique. C'est-à-dire, finalement, à chaque fois, on leur disait, vous savez, c'est bien gentil votre truc, mais en gros, au-delà de votre île, personne connaît et tout le monde s'en fout. Et c'est vraiment, c'est votre truc à vous, un peu bizarre, et ça nous amusait. Bon, pas du tout avec mépris, mais c'est une façon de noter la disproportion incroyable qu'il y avait entre la popularité et l'importance culturelle de cette série en Angleterre et le fait que ça soit vraiment circonscrit à l'Angleterre, quoi. Et puis, tout a changé, finalement, aux alentours de 2005. C'est-à-dire que tout d'un coup, nouveau look, nouveau personnage, etc., etc., la série est relancée. Nous qui sommes aussi des grands fans de SFX, le magazine anglais de SF, qui est le premier magazine de SF du monde, et dont le rédacteur en chef, Dave Bradley, est un très bon copain, régulièrement, on voyait des articles, même des covers à chaque fois sur Doctor Who. Et on a commencé à se dire avec Alain, ça va peut-être le moment. Là, il commence à se passer un truc. Peut-être que Doctor Who va pouvoir être, en quelque sorte, appréhendable et pouvoir, au-delà de l'Angleterre, et pouvoir plaire à d'autres gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'à ce moment-là, on a commencé à avoir des statuts Facebook de gens qui disaient « j'adore la série ». Ici, chez Bragelonne, il y a plein de fans, et on a commencé à voir arriver des tardis sur les bureaux. Et là, on s'est dit « ok, il se passe vraiment quelque chose, le moment est peut-être arrivé ». Et c'est Alain, l'année dernière, qui a dit « bon, c'est peut-être le moment de causer avec la BBC et de voir ce qu'on pourrait faire ». Voilà, une longue histoire qui nous amène à aujourd'hui.
Et donc, de 2005 à 2012 maintenant, puisqu'on est en 2012, vous avez passé tout ce temps à réfléchir comment vous allez produire le roman, ou alors c'est juste parce qu'il n'y avait pas encore assez de pubs, c'était pas encore assez populaire?
En fait, oui, ça s'est fait en plusieurs étapes. Finalement, comme on a beaucoup d'amis en Angleterre, et évidemment dans le milieu de l'édition, on a obtenu des infos. Et déjà, j'ai halluciné quand j'ai vu les chiffres de vente. C'est-à-dire pas parce que je pensais que ça ne méritait pas, mais parce que j'imaginais pas que Doctor Who était un tel succès. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, j'ai eu accès à la liste des meilleures ventes sur ces 5 dernières années de romans SF, fantasy, fantastique, etc. en Angleterre, tout format confondu, tout éditeur confondu. Bon, il y a toujours dans les 3 premiers les plus gros indétrônables qui sont Terry Pratchett, Ian Banks, Peter Hamilton, des gens comme ça. Voilà. Et ensuite, vous arrivez numéro 4 Doctor Who, numéro 5 Doctor Who, numéro 6 Doctor Who, numéro 7 Doctor Who. Là, on se dit, mais c'est... Et avec des chiffres qui sont centaines de milliers d'exemplaires. C'est-à-dire que Doctor Who en Angleterre, c'est Marc Lévy plus Guillaume Musso plus Bernard Werber. Enfin, c'est absolument ahurissant. La deuxième chose, c'est quantité d'anecdotes qu'on m'a racontées. Du genre, vous la connaissez sûrement, mais le fait que pendant des années, l'équivalent britannique d'EDF devait préparer des générateurs d'électricité supplémentaires pour un moment dans la semaine. C'était le moment de la coupure, de l'entracte de Doctor Who, le moment où tous les Anglais allaient allumer leur bouilloire pour faire le thé. Oui. Et ça causait une telle demande d'électricité qu'il fallait des générateurs supplémentaires. C'est rigolo, mais là aussi, on se gratte la tête. On se dit, mais c'est quand même extraordinaire. Ensuite, on commence à se demander, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que cette série, qui a à la fois tout ce qu'on aime et tout ce qu'on peut toujours trouver un peu ridicule chez les Britanniques, qui est à mon avis la liberté, et ça on va peut-être en reparler, je pense que c'est la clé de toute cette histoire, c'est je raconte ce que je veux. Oui. Et du moment que ça fait une bonne histoire et que c'est amusant et que c'est sympa et que ça me fait passer un bon moment, ça passe, voilà, et personne pour me dire non, ça c'est pas dans la ligne. Même si Doctor Who évidemment est très bien encadré par la BBC. Oui. Et à ce moment-là, oui, c'est ça, c'est qu'on se dit... Le concept, comme disent les publicitaires, est parfait, est parfaitement accessible. Il est pour tout le monde. C'est pour ça que Doctor Who est regardé par la ménagère en Angleterre. C'est pas circonscrit aux fans de science-fiction.
Non.
Et à ce moment-là, on voit également l'export commencer à se développer. Le fait que la nouvelle série commence à être diffusée à l'étranger, le fait qu'elle atteigne les États-Unis, le fait qu'on en parle aux États-Unis, le fait qu'il y ait des fans américains qui s'expriment, que des auteurs et des grandes figures de la science-fiction parlent de Doctor Who aux États-Unis, qui est quand même un pays qui a tendance à pas beaucoup s'intéresser à ce qui se fait dans le reste du monde en général et surtout pas en science-fiction.
Oui, c'est sûr.
Voilà, et donc l'ensemble de ces étapes, finalement, alors je pourrais pas les situer dans le temps, mais ça a été un mélange de accumulation d'informations, analyse, et puis bah, finalement, ce qui est le plus important avant tout, c'est d'être fan. Et Doctor Who, chez Milady, est dirigé, si je puis dire, enfin la gamme par Claire Deslandes, qui est notre directrice éditoriale. Et Claire était fan de Doctor Who bien avant qu'on lui dise « Dis donc, qu'est-ce que tu penserais de faire des romans Doctor Who ?» Voilà. C'est elle qui a négocié avec le BBC, c'est elle qui a rencontré Alice Latham, qui est une fille absolument charmante qui s'occupe du licensing des romans là-bas. On est allé les voir, on a parlé avec eux, on a exposé le projet, on leur a proposé, on leur a montré tout ce qu'on allait faire en marketing. Enfin bref, on a vraiment travaillé ensemble. Ils ont été évidemment très sensibles au fait que, alors que pourtant c'est pas très compliqué, mais en gros qu'on traverse la Manche pour faire des rendez-vous chez eux, mais parce que je pense que les Français ont beaucoup plus vite compris l'intérêt de l'Eurostar que les Anglais. Pour eux c'est toujours très loin Paris, alors que c'est quand même plus proche que de
c'est pas si loin, c'est à peine à 2 heures de
voilà,
de
c'est prendre. Beaucoup plus rapide que d'aller de Londres à n'importe où en Angleterre.
Ça, oui.
Bref, voilà, donc il y a eu cet ensemble, et ensuite, et en effet c'est Claire qui a fait ce gros travail. On s'est dit, bon, ok, parmi la foultitude d'histoires et de romans Doctor Who, lesquels on va, avec quoi on commence, dans quel ordre, et puis comment on travaille avec la BBC, etc., etc. Et là, il y avait une sorte d'évidence qui était de commencer par la série en cours, par la dernière, et ensuite, petit à petit, de remonter
en arrière.
Voilà.
Oui, donc c'était la question d'après, justement. Vous commencez avec le 11e Docteur. Qui est celui qui est le plus mis en avant par France 4 actuellement, puisque c'est là où ils font la pub. Mais vous faites carrément toute la gamme des romans du 11e Docteur actuel sorti en Angleterre. Est-ce que c'est pas un risque de prévoir ça, ou alors est-ce que bon, vous...
Je pense que l'enjeu principal, c'est en fait, quand on publie les romans Doctor Who en France, on s'adresse en gros à des fans qui connaissent tout sur la série comme vous. On s'adresse à des gens qui aiment bien la série, qui la regardent en DVD ou qui la regardent sur France 4, mais voilà, parmi d'autres. Et puis on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc il faut essayer, alors il faut pas, on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois, mais en gros, il faut essayer d'avoir une offre qui corresponde le mieux possible au plus de gens possible. Bon. Deuxièmement, il y a quand même une volonté générale aujourd'hui à la BBC de mettre en avant le docteur actuel et qui est aussi le plus populaire. C'est-à-dire que À la Comic-Con en France, par exemple, Claire m'a raconté que bah, quand il y avait des photos de Matt Smith qui apparaissaient, il y avait des filles qui criaient dans la salle.
Oh, bon. Oui, mais
et pas que. Et du coup, et alors ça, voilà, évidemment, c'est quelque chose sur quoi, si je puis dire, la BBC capitalise en disant aujourd'hui, Matt Smith est notre meilleur ambassadeur pour Doctor Who, autant le mettre en avant lui, autant l'utiliser lui, si je puis dire. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que ce qui n'est pas réducteur, c'est que en gros, quand on y a goûté à Doctor Who, ensuite, on en veut d'autres. Donc, les gens auront découvert Doctor Who avec Matt Smith et, par exemple, avec nos romans avec ce docteur-là, ben, vont sans doute vouloir en découvrir d'autres, vont découvrir l'ensemble de la mythologie, vont découvrir qu'il y a d'autres docteurs, etc., etc. Donc, finalement, c'est le biais à privilégier. Donc, ce n'est pas un choix idéologique. C'est pas parce que ça serait pour nous le meilleur docteur ou la meilleure série, etc. C'est la meilleure approche aujourd'hui pour faire découvrir Doctor Who au plus de gens possible dans notre pays.
Alors, ce qui est plutôt agréable, en fait, c'est que vous allez sortir les romans dans l'ordre où ils sont parus en Angleterre, même si l'ordre n'a pas réellement d'importance dans les romans eux-mêmes. Donc, vous auriez très bien pu sortir les 9e et 10e docteur, en fait, en plein milieu du mois. Mais vous suivez quand même une certaine logique. Ce qui est agréable. Ce qui est rare, en fait.
Je vous remercie de le dire. Ça nous semble un peu évident. Je pense que, sur ce point précis, je crois que c'est aussi une question de génération. C'est qu'on est la génération de ceux qui n'ont jamais compris pourquoi la télé française, les séries américaines ou anglaises étaient diffusées dans le désordre. Oui. Systématiquement.
Oui, voilà. C'est vrai.
Et pour la meilleure façon de les flinguer, comme Millennium, par exemple.
Et c'est toujours le cas, etc.
Et c'est toujours le cas. Pour nous, enfin, c'est une évidence. C'est aussi, soyons honnêtes, ce qu'il y a de plus pratique, c'est-à-dire autant faire comme la BBC, après tout, si ça marche, ou Every Books qui publie là-bas, si ça marche comme ça chez eux, pourquoi est-ce que,
passez-moi
l'expression, on s'emmerdera à faire autrement. Et pourquoi ça marcherait pas ici? Et ensuite, oui, c'est ça l'idée, c'est que à la fin de l'année vont s'ajouter donc à ces 16 titres avec le 11e Docteur. Deux titres, si mes souvenirs sont bons,
oui.
Avec le précédent.
Le 9e.
Voilà. Et avec le 9e, exact. Et que donc, comme ça, on va pouvoir finalement donner une autre approche, faire découvrir un autre docteur. Et au fur et à mesure, eh bien, continuer à déployer la série, en touchant du bois, pourvu qu'elle marche, pour pouvoir continuer. Et alors, ça demande, c'est toujours un petit peu délicat, c'est-à-dire qu'on peut pas, il faut pas sortir des choses trop différentes en même temps, parce que sinon le libraire va se paumer, parce qu'il a un million de bouquins à gérer. Si on sort, par exemple, deux docteurs en même temps, le même mois, il va bien falloir cadrer avec lui que c'est deux séries différentes, mais qu'en même temps on peut lire les deux, on n'est pas obligé de choisir l'une ou l'autre. Enfin, il y a tout un travail.
C'est très compliqué pour quelqu'un qui connaît pas.
Voilà, de pédagogie. On aide à cette compréhension quand même. Même si, fondamentalement, moi, je pense que aussi l'une des forces de Doctor Who, c'est qu'on peut découvrir avec à peu près n'importe quel épisode, n'importe quand, et si ça vous plaît, vous voudrez en voir d'autres. Enfin, je veux dire, c'est pas une série qui vous exclut. C'est pas une série qui vous dit « Ouh là là, attention, si t'as pas tout compris, si tu connais pas tout, si t'es pas un spécialiste, tu vas rien capter.
Oui. »
Non, on regarde un épisode, on dit « Tiens, c'est marrant », et puis on veut en voir d'autres. Mais on va quand même aider aussi à cette mise en place, à cette compréhension, avec, évidemment, un effort marketing qui sert pas seulement à dire « C'est bon, mangez-en », mais qui sert aussi à faire découvrir le monde, la culture, l'historique, etc. Et notamment une chronologie qui permet d'insérer les romans dans la chronologie générale de la série, de façon à, voilà, si on veut vraiment savoir à quel moment de l'ensemble de l'histoire se place ce roman, ben, on a un petit outil pour vous le dire.
Oui, ce qui est pratique parce qu'en fait, il n'y en a pas en Angleterre réellement. C'est plus les fans qui décident à peu près où les romans sont placés parce que la BBC se refuse à faire un canon pour la série et à mettre les romans dedans, parce que c'est un vrai bordel, disons,
à ce
niveau-là. Donc, c'est plutôt agréable d'avoir ce genre de petit papier, parce que ça, justement, ça permet, ça aide vraiment de savoir quoi lire, à quel moment, après avoir vu quel épisode, comme ça, on n'est pas perdu.
Je pense aussi à autre chose, votre remarque me fait penser à autre chose, qui je crois est très important, c'est que Doctor Who est devenu un tel phénomène en Angleterre que chacun se l'approprie. Mmh. Et donc, comme vous le faites dans votre podcast, ça suscite des débats
longs parfois.
Très longs. Et c'est très amusant de voir, par exemple, la convention EasterCon, la convention britannique de fantasy qui a lieu à Pâques, de science-fiction, pardon. Évidemment, il y a le moment où le monde entier s'arrête, y compris la convention, parce qu'il y a l'épisode de Doctor Who. Et ensuite, pendant le reste de la convention, tout le monde va en parler. Oui. C'est-à-dire que la première chose ce soir-là, ensuite, qu'on se retrouve au bar, au pub, c'est « Bon, alors, docteur, tu en as pensé quoi de l'épisode ?» Oui. Donc, ça fait partie aussi du truc, c'est que c'est quelque chose qu'on discute en permanence. En France, on est loin d'en être là. Donc, il vaut mieux, et évidemment, tout ça s'est fait avec l'accord de la BBC, il vaut mieux être un petit peu plus directif, si je puis dire, et dire « Bon, alors voilà, voilà des infos, voilà une chronologie, voilà une timeline, partons de là ». Et puis, avec un peu de chance, dans quelques années, tout le monde pourra débattre. On n'aura ni besoin ni l'envie, finalement, de dire, d'encadrer un peu l'univers. Mais voilà, on ne fait que démarrer. Je crois d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, je crois qu'on est le premier pays au monde à traduire les romans Doctor Who.
Ah non, pas tout
à fait. Ah, alors, enfin, qui l'a fait
parce qu'en fait, ça dépend. Pour la nouvelle série, j'avoue ne pas trop savoir, mais je pense qu'il y a des versions japonaises.
D'accord.
Mais par contre, pour la série classique, il y a eu l'Allemagne, plein d'autres pays qui ont déjà édité tous les romans qu'il y a eu dans le passé.
D'accord.
Pour la nouvelle série, je pense qu'il y en a un peu moins, effectivement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des romans allemands. Parce qu'au contraire, même si en France est proche de l'Allemagne, en France, la série est quasiment inconnue. Mmh. Mais en Allemagne, elle est diffusée depuis les années 70.
Ah ouais, c'est bête. De toute façon, l'Allemagne est la patrie de la science-fiction et l'imaginaire en Europe.
Ils sont plus en avance sur nous.
Ouais, toujours. Bah, c'est un pays anglo-saxon, hein, déjà, oui, hein, culturellement. Donc, ils sont beaucoup plus. D'accord.
Non, vous êtes. En fait, en France, vous êtes pionniers, parce que les seuls romans qu'il y a eu, c'était en 89, édités avec la diffusion des épisodes, des quelques épisodes qu'il y a eu en 89. Mmh. Mais il n'y a eu que 8 romans. Dans le désordre, en plus, ils n'ont pas été édités convenablement, et la traduction est plutôt moyenne.
D'accord.
Donc. Vous êtes quand même les pionniers, d'une certaine manière, à sortir autant de romans, à prévoir autant de romans, surtout pendant l'actualité, au final, puisque les romans avant la diffusion des épisodes, ouais. Tout ça.
Bon, en étant tout à fait sincère, je pense que la série n'aurait pas été diffusée sur France 4, on aurait quand même fait les romans.
Hein. Oui.
Mais bon, c'est plutôt mieux.
Un peu moins, disons, peut-être.
Ben alors, donc, d'accord, mes informations sont incomplètes. J'imagine que c'est parce que Alice, chez BBC Books... heureusement pour elle, est encore trop jeune pour savoir tout ça. Je pense qu'elle n'était pas aux affaires
série,
à l'époque.
Elle avait peut-être raison, mais il me semble bien qu'il y a des romans japonais, parce que je me rappelle bien avoir vu des couvertures japonaises.
D'accord.
Mais par contre, pour la nouvelle série, non. Enfin, pour la série classique, pardon, non. Vous n'êtes pas les premiers.
D'accord.
On ne peut pas, depuis 63, quand même.
Ce que j'espère, évidemment, enfin, ce qu'on espère tous, c'est qu'on va donner l'exemple, en tout cas relancer l'envie, ici ou là, à d'autres pays européens, d'en faire autant. Ça dépend évidemment de la diffusion de la série, ça dépend de beaucoup de choses.
Oui.
Mais je pense que Doctor Who a évidemment vocation à intéresser de plus en plus de gens dans le monde, quoi.
Oui. Alors, à propos des romans que vous avez sortis en fin d'année, donc du 9e Docteur, vous avez choisi deux romans, donc c'est Only Human et The Stealer of Dreams. Donc c'est Seulement Humain, je crois, et Le Voleur des Rêves. C'est ça, ça doit être ça, les titres français.
Je vous fais confiance.
Et ces romans-là ne sont pas vraiment à côté, c'est même dans les derniers qui sont parus. Est-ce que c'est un choix dans l'équipe, ou alors c'est parce que vous en avez pris deux au hasard ?
Non, c'est un choix. C'est clair, encore une fois, évidemment, avec la BBC, qui a dit on aimerait bien ajouter, si je puis dire, le 9e Docteur en 2012. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et elles ont discuté ensemble, sur la base de la lecture de Claire, qui a dit moi, je ferais bien cela. Aussi, j'imagine, sur la popularité, sur les chiffres de vente en Angleterre. Bref, elles se sont mises d'accord ensemble en disant si on a deux pour démarrer, faites ces deux-là.
C'est ce qu'on peut considérer comme étant les deux meilleurs romans du 9e Docteur.
Ceci doit expliquer ça.
Donc, c'est bien de les sortir comme ça, ça permettra de les avoir en français. Donc, est-ce qu'un jour, vous ferez les romans de la série classique ? Est-ce que vous adapterez les romans du passé ? Ou alors, est-ce que c'est complètement... vous ferez que la nouvelle série ?
Il ne faut jamais dire jamais. Je pense qu'on a encore du chemin à faire avant d'en arriver là. Mais, en même temps, ça serait génial. Ça serait génial. Je pense qu'au fur et à mesure, on va voir comment ça se développe.
Parce que là, on peut dire que vous avez du stock avec tout ce qui est sorti.
Ah oui, là, il y a de quoi faire, oui. Il faut aussi y aller progressivement parce que là déjà faire 16 romans en un an c'est beaucoup. Fatalement, même si ça marche extraordinairement bien, on va pas s'amuser du jour au lendemain à en faire 3 ou 4 ou 5 par mois, tout simplement parce que les libraires pourront pas l'absorber et parce que
ça ferait trop.
Donc il faut y aller progressivement. Mais il faut jamais dire jamais, parce que pourquoi pas, on pourrait y arriver petit à petit, ou peut-être faire une sélection, par exemple, faire une sélection de oldies, si je puis dire, peut-être pas tous, mais en choisir les meilleurs, ou faire une compile, ou faire quelque chose comme ça, en finalement donner un petit goût de Doctor Who d'avant, si je puis dire. Voilà, tout est possible, je pense qu'on peut. La BBC, ils sont très très ouverts à toutes les initiatives qu'on peut avoir, ce qui est extrêmement agréable. Hein, enfin, évidemment, je les cite beaucoup. Hein, forcément, on parle de Doctor Who, c'est difficile de ne pas parler de la Bible.
C'est impossible.
Mais on a été vraiment enchantés de la façon dont on a travaillé avec eux. Et je dois vous dire que c'est pas toujours le cas. Hein, c'est-à-dire que on travaille avec beaucoup de licensors, Lucasfilm, Hasbro, Microsoft, pour les jeux vidéo et tout ce que vous voulez. Certains sont très faciles à vivre, d'autres beaucoup moins. Ils ont aussi des grosses contraintes, il faut être honnête. Quand vous gérez une licence qui pèse des milliards, vous ne laissez pas les gens faire n'importe quoi
Non, c'est normal.
et vous payez des gens pour encadrer tout ça. Ça peut se comprendre. Avec la BBC, ça a été vraiment dès le début un enchantement. Ils nous ont aidés, mais ils nous ont jamais empêchés d'avoir des idées, et ils n'ont jamais freiné notre envie, ce qui est extrêmement important quand on se lance dans une aventure comme ça. Donc, in due time, hein, comme disent nos amis, le moment venu, on pourra imaginer en effet des publications d'ouvrages plus anciens.
J'espère ça, parce que j'ai envie de lire, et ça c'est sûr. Maintenant, on va parler un peu plus de vous, puisque j'ai appris que vous étiez fan de la série, enfin de la nouvelle série, je suppose. Comment vous avez découvert, en fait?
Comment j'ai
Réellement la série, je parle. Enfin, vous avez découvert avec la convention, forcément, quand vous avez été en Angleterre. Mais je veux dire, comment vous êtes venu à regarder la nouvelle série? Est-ce que c'est avec France 4, encore une fois, ou alors c'est...
C'est avec des DVD, c'est avec j'étais cerné par des gens qui la regardaient, je pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire que ce soit chez nous, enfin au service marketing et communication, César Bastos qui est community manager, Céline Hubert qui est médiaplaneuse, enfin sont des super fans, Alain évidemment, Claire Deslandes, directrice éditoriale, mais plus encore, par exemple Ange, qui sont Anne et Gérard Guéraud, qui sont scénaristes de BD, traducteurs et qui écrivent des romans pour nous, étaient des fans depuis toujours. Enfin voilà, on avait vraiment trop d'amis autour de nous. Cédric Perdereau, qui est un traducteur de fantasy de SF français aussi. Ça fait un petit choc quand, par exemple, Barbara Liano, qui est notre directrice administrative et financière, qui est évidemment une amatrice de fantasy et de SF, mais qui n'est vraiment pas une geek, essentiellement, quand on parle de la série, elle dit le docteur.
Oui.
Voilà. Quelqu'un qui dit le docteur, c'est quelqu'un qui connaît.
Connaît, oui,
Et
automatiquement.
là, j'ai dit, mais Barbara, tu dis le docteur. Et genre 5 minutes après, elle a dit la Bib, au lieu de dire la BBC. J'ai dit, OK, tu es contaminé. Ils sont partout. Donc voilà, fatalement, un jour, on a mis sur mon
Un peu
bureau
obligé, oui.
voilà, les DVD de la série avec
Alors, vous avez connu en français
Christopher.
ou en anglais, par contre?
En anglais.
En anglais, oui.
Ouais.
Donc,
J'ai jamais regardé la VF. Enfin, mon métier fait que je ne lis et je ne regarde pas beaucoup de choses en
en français.
français. Si ce n'est les séries télé et les films de mon enfance, parce que je les ai aimés en VF, voilà, et aussi parce qu'à l'époque la VF était de bien meilleure qualité qu'aujourd'hui,
Oui.
malheureusement, pour des questions de budget et plein d'autres raisons. Alors je ne connais pas la VF de Doctor Who, je ne sais pas si elle est
Elle est
bien.
toujours un peu, même si maintenant elle est plus qu'honorable, à mon avis. C'est vrai que les premières saisons, elles n'étaient pas terribles parce qu'ils ne connaissaient pas encore le sujet, ils ne savaient pas trop quoi faire, comment traduire. Mais bon, elle est toujours un peu critiquée par les fans, malheureusement. Je trouve qu'ils vont parfois peut-être un peu voir les petites bêtes.
Oui.
C'est
Ah
normal,
ben
hein.
voilà, un fan,
C'est un fan, c'est un fan.
c'est fait pour ça, absolument. Ouais.
Donc, est-ce que vous avez vu la série classique au moins une fois un épisode?
J'ai vu quelques épisodes par-ci par-là pour un plaisir un peu suranné, en gros. J'ai pas eu le temps de m'y engager vraiment. J'aimerais bien parce que je suis très Par exemple, je suis un grand fan des Avengers, je suis un grand fan des séries britanniques en général, y compris celles qui ne datent pas d'hier. Et donc, j'aimerais beaucoup. Là, je manque vraiment de temps pour le faire, mais on sait jamais. Il se peut très bien qu'un copain anglais me prenne en otage un jour et me dise, voilà, il faut absolument que tu regardes,
Regarde toute la saison.
voilà, ou au moins ces 3 épisodes essentiels.
Mais vous avez le choix, il y a pas mal d'épisodes, donc vous avez de quoi faire. Hein.
Ouais. D'accord.
En tout cas, les romans vont paraître au mois de janvier, c'est ça les trois premiers? Vous avez une date,
Absolument.
c'est le...
Le 20 janvier, très exactement, coup d'envoi avec trois romans.
Voilà. Et le prix, c'est 5,40€ pour le premier, c'est cela ?
En fait, le premier est à 5,03€. Grâce à l'augmentation de la TVA, on a un prix complètement bizarroïde. et les suivants sont à 7€. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que le premier fait partie d'une opération de janvier qui s'appelle, qu'on a appelée, nous, en interne, l'opération Petit Prix, c'est-à-dire une sélection d'une douzaine de titres en poche de chez Milady, à prix réduit, pour faire découvrir. Donc, il y a des choses très diverses, de la science-fiction, de la fantasy, Assassin's Creed en jeu vidéo, etc. Et on s'est dit que c'était parfait pour Doctor Who. Pour,
Un moyen de le lancer.
Exactement, 5,03€.
C'est pas vraiment cher pour les romans.
C'est un café crème dans un bistrot parisien. Je pense que ça, c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir et de découvrir quand on ne connaît pas. Et évidemment, de pouvoir enfin les lire en français.
Et ils seront bien sûr disponibles dans les Fnac, Virgin.
Les Fnac, dans 1200 librairies francophones. On va les trouver partout.
Juste une dernière question avant de finir cette interview. Pour les Belges, puisqu'il y a des fans aussi en Belgique qui sont un peu lésés par rapport à nous Français, puisqu'ils n'ont pas France 4, ils n'arrivent pas à avoir les DVD convenablement, tout ça. Est-ce que les romans seront aussi disponibles en Belgique ?
Absolument. Nous sommes parfaitement diffusés en Belgique. Nous sommes parfaitement diffusés en Suisse. Et nous sommes aussi parfaitement diffusés au Québec. Donc vraiment, tous les lecteurs francophones. D'ailleurs, j'étais à Montréal il y a un mois et demi avec Olivier, notre directeur commercial, pour présenter le programme Doctor Who au Québécois, qui était absolument emballé. D'ailleurs, Doctor Who est diffusé au Québec, au Canada. Donc vraiment, tous les fans francophones de France, Benelux, Québec, etc., auront parfaitement accès à tous les romans Doctor Who. Ils seront partout.
Ah, c'est super ça. Il y en a qui vont être bien contents parce qu'on a des fans en Suisse qui respectent toujours à cause des DVD et tout ça. Donc c'est parfait. En tout cas, merci pour cette interview.
Merci
pour toutes
vous.
Ces informations. On a hâte de les voir, de pouvoir les lire en français, de pouvoir les lire, voir en librairie, parce que ce sera une première de voir Doctor Who dans toutes les Fnac. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé à part un DVD. Donc là, c'est vraiment un événement pour les fans.
Génial.
Et puis bah, voilà, moi je vais revenir au Gallicast. Merci.
Ok, au revoir monsieur. Merci.
C'était Stéphane Marsan le 12 janvier dernier. Quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 45 donc de la semaine prochaine. Mais entre temps, il y aura peut-être un nouveau hors-série consacré à la saison 2 de Sherlock. Et devinez avec qui je le fais ? Oui, c'est avec Joël. Donc prochain épisode et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, va-voum.
C'était le Gallicast. Va-voum!